Actu SF, les podcasts.
Bonjour, bonjour à tous et toutes, et rebonjour à un certain nombre d'entre vous. On est sur la fin déjà de ce beau festival 2019 et je suis heureuse d'accueillir ce panel d'invités qui me permettront de les présenter comme des habitués du festival, parce que c'est un vrai hommage à leur belle carrière à tous et toutes déjà. Alors Nathalie Do, notamment, est une autrice inspirée par le folklore et la mythologie, qui a son actif de nombreuses nouvelles, des directions d'anthologie chez Nesty Venen, chez Griffe d'encre, chez Argemios, la maison d'édition qu'elle a fondée et dirigée, dans la revue Mythologica, et de romans qu'on a aujourd'hui le plaisir de retrouver son œuvre dans des versions revues et enrichies aux éditions des Moutons Électriques. Donc sont reparus ainsi dans ces nouvelles versions. Le Chaudron brisé, les deux volumes du livre de l'énigme, Bleu Puzzle, et je signale également le roman mosaïque féerique et post-apocalyptique En revenir aux fées, qui est ici que vous voyez un peu moins, hop, qui est paru aux éditions Voyelles, et où reparaissent également quelques nouvelles à la fin de l'œuvre antérieure de Nathalie Do. Jean-Laurent Del Socorro. J'ai choisi le D comme lettre. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ou si c'est à S qu'on te classe. Vraie question. Jean-Laurent Del Socorro, alors, était coup de cœur des Imaginales 2018. Vous l'avez sans doute croisé à cette occasion et prix des bibliothécaires pour Boudica cette même année. Et il a publié à ce jour deux romans de fantasy historique très remarqués. En 2015, Royaume de Vent et de Colère, qui est situé à Marseille à la fin 16e sur fond de Guerre de religion, dans le royaume d'Henri IV, et en 2017, dont celui dont on va parler, Boudica, sur cette reine celte qu'on connaît mieux sous son nom latinisé, ce qui est en soi significatif, Boadicée, qui a résisté à la conquête romaine au 1er siècle. Jean-Philippe Jaworski, qu'on ne présente plus, agrégé de lettres modernes et enseignant à Nancy, et auteur, donc je dis à chaque fois la même chose, hein, c'est fou. Auteur de jeux de rôle, avec en particulier Te Deum pour un massacre, qui est un jeu de rôle historique sur les guerres de religion, et puis auteur de fiction salué par les amateurs d'imaginaire et de beau style, et par deux prix Imaginal du meilleur roman francophone. Hein, c'est un apax, c'est une exception. Donc un prix pour chacun de ces deux ensembles, édités au Mouton Électrique et en poche chez Folio SF. D'une part, Les Récits du Vieux Royaume, avec les recueils Jeanne Avera et Le Sentiment du Fer, et le roman Gagner la guerre. Et puis l'autre ensemble actuellement en cours, c'est Roi du Monde, son cycle qui comprendra trois branches sur un héros biturige, donc une tribu celte, dont quatre volumes, un pour la première branche et trois pour la seconde branche, sont pour l'instant parus. J'ai beaucoup de mal avec les branches. Et enfin, last but not least, à ma gauche, un peu derrière le pilier, Sylvie Miller, que vous avez peut-être croisée dans l'équipe des modérateurs et interprètes, parce qu'elle a traduit des textes d'imaginaire hispanique, et elle a permis de faire connaître ce continent de l'imaginaire avec deux anthologies sur ses corpus aux éditions Rivière Blanche. Je l'avais interviewée l'an dernier pour son premier roman solitaire, le très réussi Satinka, qui mêle les mythes et les histoires de la construction des États-Unis. Et elle nous revient cette année avec le cinquième et dernier volume, en tout cas pour le moment, de... Ah, voilà, moi je dis... Ne désespérons pas, tout est toujours possible. Des aventures de Lasser, hein, le détective des dieux. Donc on a cinq romans et des nouvelles depuis 2012, et le volume Un privé sur le Nil, qui avait été prix Imaginal des nouvelles et recueils, et donc qui est une des grandes réalisations du duo créatif qu'elle forme avec Philippe Vard, voilà, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui évidemment va être à nos côtés en pensée. Et cette fois, Sylvie Lasserre se retrouve en Terre Celte, hein, trahison en Terre Celte. Donc, d'où le panel, on y arrive. Donc, les Celtes, bon, voilà, on les associe spontanément à un imaginaire de l'ouest de l'Europe, hein, petite et grande Bretagne, Irlande. On va penser à des druides, à des beaux entrelacs végétaux, à une relation privilégiée avec la nature, à une culture orale. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ou de corriger ou d'accentuer dans cet imaginaire collectif des Celtes? Celui qui veut commence, et puis vous n'hésitez pas à vous répondre les uns les autres. Je ne suis pas là pour...
Bonjour. Quelque chose qui m'a été révélé quand j'ai travaillé sur Boudica. Je travaille toujours avec un historien ou quelqu'un qui relit mes textes, ce que j'appelle être un spécialiste. Là, c'était un archéologue qui m'avait tapé sur les doigts sur de nombreuses erreurs. Et ça m'avait permis de recroiser certains aspects, notamment l'aspect contact avec les autres peuples. Il y a deux dimensions qui m'avaient interpellé dans Boudica. Moi, j'étais pas mal sur certains clichés au démarrage. Déjà, leur relation commerciale avec d'autres peuples, et notamment les Romains. C'est-à-dire, les Romains n'arrivent pas... Enfin, voilà, c'est pas des frontières fermées. Ils sont pas isolés, tout seuls. Non, ils sont en interaction. Et ils sont parfois décrits, notamment par les vainqueurs et les Romains, comme des peuples barbares, alors qu'ils avaient des niveaux d'artisanat, notamment, très développés. Et on trouve encore, à ce titre-là, par exemple pour la joaillerie ou pour les métaux, on se rendait compte qu'ils plaquaient l'or, qui a priori une technique très compliquée, qu'il fallait du mercure, le mercure qui était par exemple retrouvé en Angleterre, eh bien, se retrouvait c'est du mercure du Portugal, donc il y avait des échanges commerciaux, ils avaient des liaisons, ils parlaient, les dignitaires celtes étaient latinisés, parlaient le latin. Bref, on n'est pas du tout sur les gens ni isolés ni barbares qu'on avait, mais bien des gens en interaction, qui avaient un commerce très fort dans un territoire qui était très très large et beaucoup plus large qu'on peut l'imaginer, et qui avait un artisanat très recherché et très développé. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je laisse mes camarades réagir.
Jean-Philippe, vous nous présentez des Celtes, des Celtes de France.
Oui. Je présente des Celtes de Celtique. Et la Celtique étant définie par César comme étant la région centrale de la France actuelle. Le mot, il est employé d'abord par des historiens grecs. Il est fugitivement employé par César qui lui préfère le mot latin de Galie. Mais au début de la guerre des Gaules, il dit quand même que le centre de la Gaule est occupé par la Celtique. Donc mes Celtes sont des Celtes antiques, sont des Bituriges, d'où le titre du cycle, hein, Roi du monde, hein, c'est la traduction de Bituriges. En toute simplicité, ils se prétendaient les rois du monde. Et effectivement, comme le disait Jean-Laurent, en fait, c'est une civilisation qui nous a été présentée comme barbare par les Latins et Grecs, tout simplement parce que Latins et Grecs ont été confrontés à des invasions et ils ont souvent vu le volet le plus guerrier du monde celtique, alors qu'en fait, il semble qu'il y ait eu un très grand raffinement dans certains domaines. Jean-Laurent évoquait le domaine de la joaillerie. Il faut savoir que l'essentiel des véhicules qui ont été employés ensuite dans l'Empire romain proviennent tout simplement de la technologie gauloise. Rome a récupéré aussi la cavalerie gauloise. Les légionnaires de César qui envahissent la Gaule sont équipés avec des cottes de mailles et des casques gaulois. L'armure segmentata que vous voyez dans Astérix, hein, c'est pas du tout l'armure qu'on porte au 1er siècle avant notre ère, c'est une cotte de maille et c'est une invention gauloise du 3e siècle avant notre ère. Donc il y a une sophistication sur le plan technologique qui est très importante, sur le plan politique aussi, puisqu'en fait César envahit des États qui sont en train de se transformer en république avec des magistrats élus, et c'est César qui impose à nouveau des rois. Parce qu'un roi, c'est plus facile à contrôler qu'une assemblée qui, tous les ans, va élire de nouveaux magistrats. Donc, oui, la vision barbare qu'on a du monde celtique, c'est un cliché qui nous a été imposé par les auteurs latins et grecs. Sachant que, par ailleurs, ce sont aussi de vrais brutes, et que quand le philosophe grec Posidonos d'Apamée est révulsé en voyageant en Gaule parce qu'il voit partout des têtes coupées, c'est quelque chose qui est confirmé par l'archéologie. Hein. On a retrouvé aussi bien des portails avec les niches qui étaient destinées aux têtes coupées que des têtes encore enclouées. Donc il y avait bien des rites extrêmement brutaux. Donc on a affaire à une société qui est très contrastée. À la fois beaucoup plus raffiné que les clichés qu'on peut avoir, tout en restant assez barbare sur d'autres domaines. Alors ça, c'est passionnant à mettre par écrit.
Nathalie, qu'est-ce que vous avez envie de nous faire découvrir sur ces Celtes que vous connaissez extrêmement bien, cette fois sur le versant folklorique ?
Oui, alors, en ce qui me concerne, je maîtrise moins les dimensions historiques que mes camarades, mais je me suis énormément penchée sur les mythes et les travaux surtout de mythologie comparée. Et ce qui m'a intéressée beaucoup, c'est que déjà au niveau des mythes, je trouve que de tous les peuples indo-européens, les Celtes sont ceux qui sont peut-être les moins patriarcaux dans ce qu'ils présentent. Les personnages féminins ont encore des rôles importants, des rôles de pouvoir. Et puis surtout, ce sont aussi ceux qui ont conservé le plus de traces des peuples qui les ont précédés. Les travaux de Myriam Philibert, notamment, sur les mythes pré-celtiques, le démontrent. Si on veut savoir un petit peu quelles étaient les croyances des peuples qui ont bâti les mégalithes, parce que contrairement au folklore et à la légende, les menhirs, c'est pas fait par les Gaulois, c'est pas fait par les Celtes, c'est déjà là quand ils arrivent. C'est justement en étudiant les mythes celtes, en les comparant avec les autres, qu'on peut retrouver tout un tas de traces pré-indo-européenne, même dans les noms de certains dieux, il y a des racines pré-indo-européennes qui persistent dans les noms. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus passionnée. Et toujours en lisant donc de la mythologie comparée, le mythe et épopée de Georges Dumézil, il y a une phrase qui m'a marquée, c'est qu'il explique que les Romains avaient tendance à historiciser leurs mythes. Il y a des faits présentés comme historiques dans l'histoire romaine qui en réalité n'ont jamais existé. C'est simplement une historicisation d'un mythe. Un mythe qu'on va retrouver chez les hindous dans le Mahabharata, qu'on va retrouver chez les germains et qu'on retrouve éventuellement parfois aussi chez les celtes. Mais les celtes avaient, eux, la démarche inverse, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient tendance à rêver et à mythifier leur histoire. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est une attitude de réenchantement permanent du réel et ça correspond un petit peu à ma démarche littéraire qui est plus poétique qu'autre chose quelque part. Voilà.
Très bien dit. Et Sylvie, alors là pour le coup, Lasser, il va visiter vraiment les hauts lieux de l'imaginaire celtique, parce que voilà, Lasser, c'est une uchronie humoristique, et donc au contraire, on va retrouver dans ce qu'il nous fait découvrir les Karnak, les Stonehenge, les lieux arthuriens, etc. Bon, c'est Liande, dites-nous en plus.
Absolument. Donc, effectivement, le propos de Lasser, c'est une uchronie. Donc, on est dans les années 30, mais le monde n'a pas évolué tel que nous, on le connaît. C'est-à-dire qu'il est resté avec ses structures antiques. Il y a encore des pharaons en Égypte, il y a encore des Romains et un empereur à Rome, mais Vercingétorix a botté les fesses de Jules César, qui est reparti chez lui tranquillement, et donc la Gaule est restée la Gaule. Donc, évidemment, on est dans les années 30. Que serait devenu le monde si, effectivement, les Gaulois n'avaient pas subi cette influence romaine ? Eh bien, du coup, il y a eu plein de... On a dû faire, avec Philippe, énormément de recherches pour reconstituer les lieux. Donc, forcément, il va chez les Arvernes, il va à Gergovie, où la ville est encore là. Alors, il y a encore des maisons très traditionnelles avec des villages qui vivent à l'ancienne, mais il y a aussi des maisons en dur parce qu'ils ont quand même appris à construire en pierre, alors qu'à l'époque, ils ne construisaient qu'en bois. Et on a eu du mal à retrouver des traces des maisons, ou en tout cas, on a trouvé des traces avec des trous, des pieux dans le sol. Donc, du coup, on a joué quand même un petit peu avec l'histoire, mais on retrouve effectivement certains hauts lieux comme Carnac, comme, et puis bon, bah, on joue avec le mythe arthurien. Là, pour le coup, c'était vraiment, puisqu'on joue avec les mythologies, c'était de mettre tout un joyeux mélange de tout ça pour redécrire tout ce qui est resté finalement dans le conscient et l'inconscient collectif autour de cette mythologie-là, et c'était amusant de jouer avec. Mais il y a quand même beaucoup de recherches. Quand on, par exemple, quand il arrive dans le village où habite son oncle, il y a notamment eu des archéomusées où ils ont reconstruit des villages. Je me suis inspirée des travaux qui ont été faits autour de ça pour éviter on s'est inspiré pour éviter de raconter n'importe quoi. De même qu'il y a des druides, et c'était assez amusant de faire un peu revivre cette société ancienne tout en la modernisant.
Donc effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'on connaît très mal la période et la civilisation celtique. Est-ce que ça vous a posé problème? Alors d'abord, ceux qui sont du côté de l'histoire, davantage, est-ce que ça vous a posé problème, ou est-ce qu'au contraire, ça a pu vous libérer? Libérer votre imaginaire, et puis on retrouve ce que disait Nathalie sur cette démarche poétique intrinsèque à la civilisation celte.
Bah en fait, les deux. D'une part, c'est très stimulant d'avoir comme ça un certain champ libre en raison des lacunes de nos connaissances. D'un autre côté, il y a des fragments, et en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai toujours la crainte, à un moment donné, d'inventer quelque chose qui va rentrer en contradiction avec des hypothèses ou des découvertes récentes, puisqu'on continue à faire pas mal de découvertes, la perception qu'on a du monde celtique évolue sans cesse, aussi bien chez les archéologues que chez les historiens. Donc il s'agit de vérifier quand même que je rentre pas dans ce que j'écris en contradiction complète avec des théories, et parfois il y a quand même des contradictions que je découvre après coup. C'est un peu essayer de reconstruire le dessin représenté sur un puzzle dont on a environ 20% des pièces, sachant que ces pièces sont mélangées avec des fragments de 4 ou 5 autres puzzles. En gros, c'est ça, on a une fragmentation de détails, des petites données archéologiques, des hypothèses qui sont parfois très discutées, des témoignages chez les auteurs de l'Antiquité, mais les auteurs de l'Antiquité sont des Latins et des Grecs qui en général comprennent mal le monde celtique et de toute façon le méprisent pour la plupart d'entre eux. Et puis il peut y avoir des données qui sont très orientées. Hein. On a par exemple des informations sur les sacrifices humains faits par les Celtes dans la plaidoirie faite par Cicéron pour un magistrat romain qui en fait était attaqué par des gallo-romains parce qu'il avait pioché dans la caisse. Et Cicéron donc déformait complètement la vision qu'il donnait du monde gaulois pour discréditer les plaignants devant le tribunal romain. Si on ne tient pas compte de ces biais qui nous sont donnés par les textes de l'Antiquité, on se retrouve avec des clichés complètement déformants sur le monde celtique. Donc ça nécessite sans doute aussi un regard critique, un peu de distance. Et à partir de là, à partir des quelques éléments qu'on a et qu'on interprète et qu'on critique, on peut essayer de reconstruire une société. Et cette tentative de reconstruction, on va loger du surnaturel. Moi, je trouve que c'est assez fascinant à faire parce que la base historique nous donne la vraisemblance dont on a besoin dans la fiction. Et puis ensuite, toute la broderie qu'on va faire nous permet d'entrer pleinement dans l'imaginaire.
Vous dites souvent, Jean-Philippe, que vous êtes parti de trois noms, Ségovèse, Bélovèse, Ambigat. Ils étaient où ces noms, et ils parlaient de qui?
Les trois noms dont je suis parti, ils sont cités par Tite Live dans l'histoire romaine. Donc je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est dans le livre 10, je ne veux pas dire de bêtises. Tite-Live rapporte donc la défaite de l'Alia au début du IVe siècle avant notre ère. Hein, la première fois que les légions romaines ont rencontré des Celtes, elles se sont fait aplatir. Parce qu'elles ne s'attendaient pas du tout à se retrouver devant des grands braillards qui faisaient beaucoup de bruit, qui arrivaient en masse, qui n'avaient aucune conception civilisée du combat. Et en fait, elles ont paniqué. Et bon, une légion qui panique, elle se fait écraser, quoi. Ils ont été vraiment choqués parce que non seulement les légions romaines ont été aplaties, ensuite les survivants qui sont arrivés à Rome, c'était à une journée de marche, on dit les barbares arrivent. Les barbares n'arrivaient pas. Ils ont mis une journée de plus à arriver. Pourquoi ? Parce que les barbares s'étaient arrêtés, ils coupaient les têtes des légionnaires. Ce fameux culte des têtes. Et il leur a fallu du temps pour récupérer toutes les têtes des légionnaires qui s'étaient fait massacrer bêtement, en paniquant devant eux. Et le choc a été tel qu'il a marqué la conscience romaine, ce qui explique toute cette légende, et toute cette légende en particulier de barbarie du monde celte. Et Tite-Live est le seul historien qui nous dit « Ah mais attention !» C'est celles qui sont arrivées avec Brennus et qui ensuite ont rançonné Rome. Ce ne sont pas les premiers. Les premiers sont arrivés à l'époque de Tarquin l'Ancien, c'est-à-dire fin du 7e siècle, début du 6e siècle avant notre ère. Et il cite trois noms. Un nom de roi de la Celtique, donc Ambigatus, et puis le nom de ses deux neveux, donc Segovès et Bellovès. Et il dit c'est à Bellovès qui a eu finalement la chance de conquérir le nord de l'Italie, ce qui deviendra pour les Romains la Gaule cisalpine, c'est-à-dire la Gaule de notre côté des Alpes. Et effectivement, hein, tout le nord de la Gaule a été occupé par les Gaulois pendant plusieurs siècles. Le nord de l'Italie. Et Tite-Live étant le seul auteur de l'Antiquité à citer ces trois noms, aucun autre historien ne les cite. L'époque à laquelle il place cette invasion est problématique sur le plan historique parce que, a priori, tous les autres historiens d'Antiquité placent plutôt l'incursion des Celtes en Italie au IVe siècle avant notre ère. Je me suis dit qu'il y avait trois personnages vraiment semi-historiques, un peu comme Arthur est un personnage semi-historique, c'est-à-dire on n'a quasiment aucune trace de son existence historique, on a une nébuleuse d'indices et de réécritures, mais très peu de traces directes. Je me suis dit, voilà des personnages qui sont typiquement celtiques, en ce sens qu'ils sont semi-historiques. On n'a quasiment rien sur eux, donc je peux broder sur eux. Et justement, c'était un sujet, mais c'était aussi une page blanche. Et c'est parfait. Hein. Je cite toujours mon dieu qui est Julien Gracq, qui dit que quand on a le sujet, ensuite tout s'écrit tout seul, et je le confirme. Tite-Live m'a donné mon sujet, mais ensuite j'avais à remplir le sujet. Et c'est une aventure passionnante et démesurée et épuisante.
Quelque part, c'est un peu la démarche qui a été faite avec la série Rome pour les personnages de Titus Pullo et Lucius Varonus, dont on a juste, leur nom mentionné dans un petit texte, et puis les scénaristes ont développé
dans la guerre des Gaules, où ils font de l'émulation face aux Gaulois. Oui.
Et comme tu le disais, la difficulté finalement à retrouver des choses dans tout ce qui est historique, ben c'est un peuple qui avait une tradition orale. Donc du coup, comme il n'y a pas d'écrit, voilà. Et comme ils construisaient beaucoup de choses en bois, le bois a été abîmé, donc on n'a pas non plus, autant pour les Romains ou les Grecs, on a retrouvé de la pierre, on a retrouvé des bâtiments. Là, on a beaucoup de mal. Et en fait, les recherches, on est obligé de passer par tout un tas d'indices détournés. Mais je pense qu'il y a eu de gros progrès qui ont été faits récemment, notamment par le croisement des disciplines, puisque notamment, il y a eu énormément de recherches qui ont été faites sur les déchets laissés des fragments de poterie. On a fait des analyses biologiques, par exemple, puisqu'il s'agissait d'argile et donc de matériaux poreux, qui ont en fait retenu des molécules des aliments qui avaient été cuits. Et donc, on a pu retrouver notamment des éléments sur le type d'alimentation, à travers aussi les squelettes que l'on retrouvait, ou les ossements de choses qui avaient été mangées, et par plein de biais détournés et d'autres disciplines scientifiques, finalement, ou universitaires, on arrive à, en ce moment, c'est pour ça que les choses bougent beaucoup autour des Gaulois, et qu'on s'est un peu sorti des représentations qui avaient été données par les Grecs et les Romains.
Alors, il faut savoir que la cuisine française est vraiment l'héritière de la cuisine gauloise. Les Romains, d'ailleurs, étaient horrifiés par ce que mangeaient les Gaulois. Hein. En bon méditerranéen, eux, ils mangeaient des choses aussi délicates que le garum, c'est-à-dire du poisson pourri. Les Gaulois mangeaient de la cuisine au beurre. Les Gaulois mangeaient beaucoup de charcuterie, de la charcuterie. Hein. On représente dans Astérix et Obélix, on représente les Gaulois en train de chasser, en fait, au niveau des restes alimentaires qui ont été analysés par l'archéologie. Le gibier est très, très peu consommé par les Gaulois, qui sont des agriculteurs, et qui consomment beaucoup de porc.
Ils mangent beaucoup de porc, effectivement.
Et d'ailleurs, dans les mythologies, enfin dans les mythes celtiques, il est très important pour un bon chef de graisser la lame des couteaux de son peuple. Et ça veut tout simplement dire faire en sorte que la prospérité du village, du clan, soit telle que les porcs sont gras et que donc la viande est grasse parce que bien nourrie. Et donc, parfois, je regarde les gens qui nous gouvernent et j'aimerais bien qu'ils pensent à graisser la lame des couteaux de leur peuple parce que c'est un peu pauvre dans beaucoup d'assiettes actuellement.
J'ai peu de choses à ajouter par rapport à ce qui s'est dit là. C'est vrai que l'image du... on a un puzzle d'origine à 40%, puis c'est mélangé avec trois autres puzzles différents est très vrai. Après aussi, c'est ce qui est passionnant, c'est que c'est vivant, que c'est, on a des recherches et des découvertes qui arrivent vraiment, vraiment assez fréquemment. Et c'est vrai que la principale difficulté, paradoxalement, c'est de dire, si je veux me tenir sur un aspect historique, soit sur l'histoire, soit sur le contexte, c'est surtout d'une hypothèse que je vais devoir choisir. Et ça aussi, c'est intéressant par rapport à d'autres périodes très contemporaines qui sont très documentées. Là, on se retrouve à ne pas travailler sur un fait ou un élément précis, mais dire, voilà, effectivement, les historiens sont d'accord ou pas d'accord. Il y a deux, trois hypothèses sur lesquelles je vais partir. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que du coup, la démarche, elle rejoint très fortement, en fait, la démarche du romancier quand il dit, en fait, il y a plusieurs options sur ce personnage-là, qu'est-ce que je peux faire ? Pour faire très rapidement une illustration, le personnage de Boudicca, il y a plein de théories qui sont faites. Il y en a deux principales qui sont faites par les deux grands archéologues anglais qui étudient la zone. Ils disent soit c'était une fille qui était... le peuple Hyssen, tout d'un coup, qui prend le pouvoir dans cette zone du sud-est de l'Angleterre. Soit c'était les Hyssen prennent le pouvoir, Marie de Force, la fille du clan qui avait le pouvoir, et c'était donc une prisonnière Marie de Force. Soit à l'inverse, c'est une alliance entre deux clans, et c'est les Hyssen qui en héritent, et elle est héritière du pouvoir. Et ça, rien que pour le personnage, ça change radicalement en tant que romancier l'interprétation que vous faites du personnage. Et je pense que à travers cette période-là, et mes collègues aussi y sont confrontés, le choix de l'hypothèse, il est au centre du récit, en fait.
Et nous, à la limite, on n'a pas eu ce problème-là, puisque nous, on est sur une uchronie. Donc finalement, on a décidé, puisqu'on parle de façon détournée de l'histoire des Gaulois, mais en réalité, nous, on est en 1930, et donc tout ça, ça a évolué, c'est plus moderne, donc on a plus de liberté, pour le coup, et on ne peut pas se faire accuser de ne pas avoir respecté l'histoire, puisque c'est pas le monde, c'est pas notre monde.
Mais alors que vous êtes quand même contraint par la fin de Boudicca, vous changez pas l'histoire.
Alors, c'est marrant, c'est une question qu'on me pose souvent. On dit mais quand même, vous êtes tenté. En fait, c'est aussi une forme je fais de l'historique fantasy, et puis c'est une forme de confiance qu'on instaure avec le lecteur. Si j'ai cette démarche là de mettre le cadre très fort historique et de le respecter, c'est pas pour tricher et arranger l'histoire à ma sauce. Que les blancs, que les inconnus, que des personnages de fiction apparaissent, il n'y a aucun souci. Mais je n'ai pas triché avec l'histoire, alors que le but, c'est qu'on fait confiance sur ce cadre. Alors, je peux me tromper, hein, je suis vraiment un spécialiste d'aucune période, mais au moins, j'essaie de faire en sorte que ça colle, je l'espère, au mieux avec la véracité historique. Non, je ne triche pas.
Nathalie Do, vous aussi, vous essayez de nous faire retrouver des mythes celtes, des histoires qu'on connaît aujourd'hui très mal, hein, notamment dans le Chaudron brisé, est un vrai roman de mythologique fantasy sur un mythe celte. Est-ce que vous pouvez nous le faire découvrir?
Alors les mythes celtiques, c'était une tradition orale et il y a une démarche, la démarche du barde, elle est encore actuelle. De nos jours, au Pays de Galles, il fonctionne toujours comme ça. Il y a le chaudron d'inspiration qui appartient à la déesse Ceridwen. Son nom signifie l'inspiration brillante ou blanche inspiration. Et si vous lisez les textes qui sont passés entre les mains des chrétiens, ça veut dire la sorcière bossue. C'est assez troublant. Donc déjà, quand on lit les textes selon la source, il y a forcément des choses qui coincent. Et effectivement, les bardes, ils ont ce chaudron d'inspiration dans lequel il y a tous les archétypes et tous les éléments du mythe de base. Et chacun s'empare de ce qui l'intéresse et fait sa propre création. Et invoque la déesse donc avant de commencer à créer, à improviser, puisque elle est un peu l'équivalente des neuf muses de la mythologie grecque. Dans les mythes qui la concernent, il n'y a pas grand-chose qui a été fixé à l'écrit. Ça arrive tardivement. Dans le Hannes Taliesin, c'est figé par des moines chrétiens, copistes, qui écrivent ça, je crois, au XIVe siècle ou au XIIIe siècle. Enfin, en tout cas, c'est tardif. Et forcément, à ce moment-là...
Le livre de Taliesin.
Forcément, à ce moment-là, ils ne comprennent plus l'intégralité du mythe. Il diabolise la figure féminine, parce que même dans le mythe arthurien, on voit très nettement, ça a été très bien démontré par Sarah Dock dans sa thèse sur Morgane, qu'au début, Morgane est une femme de savoir, de pouvoir, et plus on va évoluer vers une société médiévale qui est de plus en plus entre les mains des hommes, comme ça se manifeste avec la loi salique qui écarte les femmes du pouvoir, la Morgane la plus récente, elle devient diabolique, elle devient une sorcière, elle devient mauvaise, elle est méchante avec Arthur, etc. Et ils font ça aussi pour Kéridouane, qui devient donc la sorcière bossue. Et quelque part, on peut même penser que le mot Carabosse, la fée Carabosse, ça dérive de son nom. Donc, on a ces textes. Et quand moi, je les lis, quand je suis confrontée à ça, je me dis, non, ça, c'est la version christianisée et patriarcale de l'histoire. Et j'ai voulu, donc j'ai fait plein de recherches, j'ai fait plusieurs années de recherche, j'ai correspondu avec le professeur Gwendal Leduc qui enseignait la civilisation celtique à Rennes 2, et j'ai cherché à revenir à ce qu'avait pu être l'esprit païen premier de ce mythe. Donc je ne sais pas si ma version c'est la bonne, je ne pense pas que ce soit la bonne, je ne prétends pas détenir la vérité, mais j'ai essayé de respecter l'esprit, la philosophie, la pensée, la poésie, la façon de concevoir le monde qu'il pouvait avoir. Et notamment, on se rend compte, en étudiant le droit irlandais, que dans les droits qui étaient accordés aux femmes étaient supérieurs à ce que les femmes françaises ont à l'heure actuelle. On n'est jamais revenu à un tel niveau d'égalité et de pouvoir pour les femmes dans le monde occidental que ce que les Irlandais avaient accordé à leurs femmes dans la législation. Donc là, c'est même pas en lisant des mythes qu'on s'en rend compte, c'est vraiment en lisant les textes de loi, etc. Donc c'est vraiment très, très sérieux. Et donc voilà, j'ai fait cette démarche de dédiaboliser et d'essayer de revenir à... Mais j'ai fait comme les bardes actuels, c'est-à-dire j'ai pris les éléments du mythe et ils ont fermenté dans mon chaudron personnel et puis j'ai livré mon histoire. Voilà.
Mais ça me frappe parce que c'est cette histoire de chaudron d'inspiration que je ne connaissais pas, c'est quand même exactement la très fameuse pour moi métaphore tolkienienne dans Du Conte de Fées. Il appelle ça le chaudron du conte, la marmite de soupe où mijotent depuis toujours tous les récits et où on ajoute des morceaux.
Tolkien connaît très bien le livre de Taliesin.
Oui, c'est exactement ce que j'allais dire.
En fait, il prend directement.
Il y a d'autres chercheurs anglais qui avaient lu Tolkien, hein, qui utilisaient aussi la même image.
Hein. Oui. Et d'ailleurs, il y a autre chose, c'est que moi, je suis persuadée que les Ents, j'ai pas lu vraiment d'essais sur Tolkien, donc peut-être je vais dire une bêtise, mais je suis persuadée que les Ents, qui sont des arbres qui marchent, sont inspirés en partie par le Cat Godeux, qui est le combat des arbres, qui est justement un écrit attribué au bard de Taliesin.
Et le nom du Seigneur des Anneaux, qui est donc le livre rouge de la marche, il est sans doute à mettre en relation avec le livre rouge de... qui est un ouvrage médiéval. Donc il y a des allusions dans le Seigneur des Anneaux à cette littérature médiévale.
Je pense que c'est toi, Nathalie, qui connais le mieux ce corpus parmi nous. Mais effectivement, on peut évidemment faire des liens entre ce qui nous reste de la civilisation celtique et notamment du côté du peu de littérature qu'on en a gardé, mais des mythes qui ont pu nous parvenir, tout déformés qu'ils soient, et la fantaisie contemporaine. Et ça passe par l'arthurien et ça passe par Tolkien.
Il y a un nom d'un pays dans le Seigneur des Anneaux, le pays de Dun, qui est celtique. Hein, Dun, qu'on retrouve dans Verdun, chez nous. Hein,
c'est moi. D-A-I-N.
C'est...
D-U-N. Oui, ça vient d'une, oui, de
que je prononce à la française. Ça vient du gaulois Dunon, Dunum en latin, la forteresse. Hein. C'est la place forte du monde celtique. Hein.
Puis il y a la racine du, enfin le mot gaulois du aussi qui veut dire noir. Donc ça peut aussi influencer.
Sylvie, du coup, vous faites entrer l'Arthurien dans les aventures celtes de la Serre. Il tient vraiment une place très importante dans l'histoire.
Oui, puisque finalement, on a vraiment voulu travailler sur les mythes celtes. Et puis, comme on est dans les années 30, on se dit que on va pas rester uniquement aux Gaulois. Allons-y. Faisons en sorte que, puisque la Serre passe en Bretagne, il va aller en forêt de Brocéliande. Et puis, s'il va en forêt de Brocéliande, il va trouver des petites créatures. Et évidemment, il va passer dans le lac, le fameux lac, le miroir aux fées. Et puis, de l'autre côté, il arrive dans le royaume de Morgane, où il trouve les fées, des créatures, etc. Et puis, un peu plus loin, il va partir jusqu'en Cornouailles. Il va retrouver Tintagel, où finalement, on va retrouver un château, le château d'Arthur, mais qui est un hôtel 5 étoiles. On peut s'amuser avec ça. Et puis, il va finir par arriver à trouver un passage pour retrouver Arthur, qui finalement, dans la légende, Arthur est parti en Avalon puisque son corps a été mis dans un bateau. Il est là. Alors il est ailleurs. Il ne peut pas revenir encore puisque la tradition dit qu'il reviendra le jour où Albion aura besoin de lui. Donc il est là. Et donc du coup, on va retrouver Arthur, les chevaliers. Alors après, nous on part après sur des mythes encore plus anciens puisque derrière on va vers les anciens dieux. On passe plein de détours, mais c'était assez amusant de pouvoir mélanger tout ça. Et c'était aussi une façon de montrer que ces mythes-là aussi sont très forts et qu'ils existent également et qu'ils ont vraiment pénétré notre inconscient collectif.
Nathalie, est-ce que pour vous, la légende arthurienne, le mythe arthurien, on le dit comme on veut, ça participe encore des souvenirs du monde celtique dans notre culture, ou c'en est vraiment une image déjà trop déformée?
Je ne sais pas. Pour moi, ça fait partie. Je veux dire, la légende arthurienne, en plus, on en a tellement de versions. On a les versions galloises qui sont déjà pas les mêmes que les versions armoricaines. Selon les époques, après, les Anglais s'en sont réemparés. Il y a eu toute l'influence de Henri II Plantagenet qui était très, très, très jaloux des chansons de gestes et de la légende de Clovis. Tout ce qu'avaient les rois de France qui, quelque part, en faisaient des rois de droit divin. Donc, Henri II Plantagenet a voulu que les rois anglais aient eux aussi une espèce d'origine magique, divine, etc. Donc, il a cherché à se rattacher au roi Arthur. Les moines de Glastonbury ont carrément falsifié des documents sous l'impulsion du roi. Il y a eu plein de choses comme ça. On trouve un texte qui se passe en Suisse, sur les bords du lac Léman, et où on voit le roi Arthur qui affronte un monstre qui s'appelle le chat palu. Et en fait, c'est le même chat, le même monstre qu'on trouve dans les textes gallois, qui est censé être un des enfants de la truie blanche sacrée qui est poursuivi par le Arthur gallois. Enfin, c'est partout. On trouve des représentations arthuriennes dans des cathédrales, ça, je crois que ça va même jusqu'en Turquie. Enfin, voilà, c'est vraiment partout. Et on a même dans notre vocabulaire, le mot chemin, c'est un mot gaulois. C'est pas, ça vient du gaulois. Et on en a plein des mots comme ça. Et simplement, ça a été extrêmement étouffé déjà par les envahisseurs romains quand ils ont occupé la France. Et puis surtout ensuite... Toute cette espèce de fantasme du druide celte qui se met à égorger les gens au-dessus d'une pierre couchée au milieu d'un cercle de pierres, ça vient de la période romantique, hein, c'est récent. C'est, c'est une façon de réinventer complètement le Moyen-Âge et l'Antiquité nationale. Mais il n'y a pas de vrai fondement historique sur les productions de la période romantique. Voilà.
On en revient. Et cette dissémination de l'imaginaire arthurien dont vous parliez, ça m'évoque pour le coup vraiment votre manière d'écrire. Le puzzle de Jean-Philippe, il est dans le titre de Bleu Puzzle. Et puis là, le roman Mosaïque, voilà, c'est vraiment par petits éclats comme ça que vous travaillez.
Quasiment tous mes livres, ça parle de choses fragmentées qui doivent se réparer, qui doivent se rassembler. Voilà, où c'est même parfois construit comme des puzzles. Et il n'y a pas besoin d'un psychanalyste pour vous dire d'où ça vient. Je suis une personne que la vie a énormément brisée, fragmentée, et j'essaye de me reconstruire depuis toujours. Et ça passe aussi par mes livres. Et c'est pour ça que... Puis bon, en plus, j'ai une pensée arborescente, donc j'ai du mal à suivre un cheminement linéaire. Mais voilà, mes personnages, forcément, on met toujours de soi-même dans ces histoires. Et donc, ces personnages, ils sont aussi abîmés que moi, et on essaye de se réparer en parallèle. Voilà.
En particulier dans Le Chaudron brisé, où il y a vraiment un parallèle, là, pour le coup, entre une histoire contemporaine, une histoire de couple, voilà. et puis le mythe de Kerry Douane à l'arrière-plan.
Il y a deux narrations, au début, une dans les temps mythologiques et une à l'époque contemporaine. Les deux alternent, puis se rejoignent, puisque ce qui se passe à l'époque contemporaine est la conséquence de ce qui s'est passé dans les temps mythologiques, et les deux vont se résoudre en même temps. Voilà.
Jean-Laurent, vous avez un petit projet arthurien ou c'est encore trop tôt pour en parler?
Alors oui, en effet, c'est au balbutiement, mais c'est vrai que je voulais réinvestir des mythes différents, notamment le mythe arthurien. Alors c'est extrêmement compliqué parce que ça a été fait de nombreuses fois, parfois avec de très très belles plumes ou de très très belles réinterprétations. Et de la même façon que je voulais travailler l'historique, j'ai commencé... Là, je suis à la phase 1, qui est de réaborder les textes. Et en fait, tout ce qui se dit de la part de mes collègues, je le retrouve. C'est-à-dire, tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a différentes périodes, il y a différentes couches, l'aspect christianisé de la réécriture, l'aspect plus ancien... À travers ça, ça m'interroge sur l'approche qu'on veut avoir. Et en fait, j'ai peut-être aujourd'hui, grâce à Nathalie, la réponse. En fait, si on a l'approche du barde, en fait, qui, de fait, puisque c'est oral, il y a toujours la variation qui est faite oralement, on ne se souvient pas de tout. Il y a la variation de ce qu'on y met en tant que conteur. Il y a la variation du public qu'il reçoit et à qui, en fonction de ses réactions, on a tendance à orienter une... Je me dis, en fait, il faut vraiment que je m'inspire des textes, mais je pense que ce serait une réinterprétation assez forte. Et je sais d'ores et déjà qu'il y aura quelque chose de fondamental. Ce sera les personnages féminins qui seront principaux et centraux. Ce qui a déjà été fait là aussi avec brio, avec les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon de Marion Zimmer Bradley, qui est vraiment pour moi une grande référence sur une des versions, une des réécritures du mythe arthurien. Et je me dis, au moins ça, c'est sûr. Et je veux quelque chose qui s'éloigne très fortement de l'aspect chrétien, en fait, du texte. Je veux remonter à quelque chose de beaucoup plus fondamental.
Je peux te demander quelque chose?
Oui.
Dans Les Dames du Lac, je trouve qu'elle est un peu passée à côté du personnage de Guenièvre, qui est vraiment très mièvre, justement. Mmh. Alors que quand tu lis les textes gallois, Guenouévar, c'est un personnage très fort. C'est elle qui est la détentrice de la souveraineté. Et justement, elle n'est pas chrétienne. Donc, est-ce que tu en penses aller de ce côté-là, ou vous respectez la tradition de la Guenièvre chrétienne qui tire Arthur vers les moines?
J'en suis pas là sur le... En fait, le personnage central, et c'est très drôle, le personnage central étant Morgane sur le récit, j'en suis encore à savoir comment je crée ce personnage-là. Mais oui, je pense pas que je fasse de Guenièvre une simple faire-valoir. Ça, c'est une certitude.
Merci.
Jean-Philippe, la tradition bardique est aussi très, très présente dans Roi du Monde, même si, alors là, pour le coup, on a vraiment le parti pris d'ancrer dans l'Antiquité cette histoire celtique et de la couper de ce qu'on sait de plus tard, du Moyen-Âge.
Alors, oui et non, parce que je suis un tricheur. Alors, oui, d'abord. Oui, ce qui est un peu étrange pour des Celtes, surtout bretonnants, là, je fais une réponse de Normand, l'ennemi. Oui, en ce sens que les bardes, et en particulier un barde qui est très présent dans le cycle Roi du Monde, il a entre autres la fonction bardique de l'Antiquité. Il est investi d'un pouvoir qui est très fort, qui est celui de prononcer l'éloge ou le blâme. Donc oui, la satire, hein, effectivement. Les historiens de l'Antiquité, à tort ou à raison, mais observaient que les guerriers celtes n'avaient pas peur de la mort, parce qu'il y avait quelque chose de plus grand que la mort, qui était la gloire, la renommée, la gloire posthume qui leur était apportée par les bardes. Et les bardes étaient très choyés dans le monde celtique de l'Antiquité, si on en croit les quelques sources, qui sont très choyés, très protégés, en Irlande en particulier, où il y a une profusion de bardes extraordinaire, parce que c'est vraiment le boulot qu'il faut faire.
Hein. Plus qu'on, même à l'heure actuelle, quand on est en barde, on est exempté d'impôts.
Donc, y a d'une part cette fonction qui est une fonction essentielle parce que en fait c'est en quelque sorte la valeur sur laquelle est construite toute la société celtique, qui est en tout cas la société héroïque, qui est celle de la renommée. Alors maintenant, mes bardes ou mon barde en particulier, il faut quand même lui prêter un folklore, une culture. Et il n'y a pas de témoignage écrit hein, sur ce qui se disait à l'époque. Donc c'est là où intervient le tricheur. Le tricheur, il va aller puiser dans la littérature médiévale certains mythes. Hein, on parlait de Kerudwen, hein, Kerudwen, je la récupère. Et puis ensuite, il va re-raconter ces histoires médiévales, mais avec des noms gaulois et non pas avec des noms gallois. Donc Kerudwen devient Karwawinda en gaulois, par exemple. Hein, et son mythe est aussi présent dans Roi du Monde. Hein. Et ça me permet... Alors, je ne m'y appesantis pas trop sur ces mythes-là, même s'ils sont de façon présents de façon récurrente. Un autre personnage, en fait, pour lequel j'ai récupéré disons des fragments mythiques qui viennent de la littérature galloise du Moyen-Âge, c'est la déesse Epona Rigantona, la déesse des chevaux. Rigantona, en gaulois, c'est la grande reine, mais c'est devenu Rhiannon, la fée Rhiannon, chez les Gallois. Et j'ai réexploité certains éléments du conte de Pwyll qui poursuit la fée Rhiannon, qui ne parvient pas à la rattraper jusqu'au moment où il y a la bonne idée de l'appeler. J'ai repris ces éléments-là et je les ai attribués à Bellovès, poursuivant Epona Rigantona et ne parvenant à la rattraper qu'au moment où il pense à l'appeler. Donc c'est en ce sens que je triche, j'utilise un matériau celtique plus tardif en l'archaïsant pour l'intégrer dans l'Antiquité.
On arrive bientôt au bout de cette table ronde. J'avais une dernière question que j'avais envie de poser. Je vais commencer par Sylvie. C'est clair que Lasser, ses aventures en terre celte, c'est son dernier, c'est sa dernière histoire parce que c'est un retour aux sources pour lui.
Oui, effectivement, on le voit dans le tome 1 au tout début. Donc, il est devenu détective un peu par dépit, c'est un loser, sa famille a été tuée par les dieux. Et il mène des petites enquêtes minables et puis il se met à dos un caïd de Marcella. Et donc, il est obligé de s'enfuir en Égypte. Donc, voilà pourquoi il atterrit au pays des pharaons. Et il va évidemment arriver en étant très solitaire, très désabusé. Il passe son temps à picoler du whisky. Enfin, même quand ça s'améliore, il carbure toujours autant whisky. Et petit à petit, ses enquêtes pour les dieux, finalement, vont le changer. Il va voir du pays, il va partir à Babylone, donc côtoyer les dieux sumériens, il va partir à la recherche de l'Atlantide, donc le panthéon grec, il va aller chez les Romains, Pompéi, Rome, enfin voilà, et du coup, il mûrit, il se fait des amis, et son passé, à un moment donné, le rattrape, puisque à la fin du tome 4, un ancien ami gaulois vient le chercher en lui disant « On a besoin de toi en Gaule pour une enquête ». Donc sa première réaction, c'est de dire « Non, jamais de la vie ». Et puis finalement, il se laisse influencer. Et donc là, on va découvrir évidemment des choses sur la vie gauloise, mais aussi des choses sur son enfance, même sur des choses que lui ne connaissait pas, sur son passé. Et il va quelque part boucler la boucle. Et ce qui fait qu'à la fin du tome, on trouve un artifice pour le sortir du jeu, puisque normalement, à la fin de chaque... Enfin, chaque tome commence par « J'étais accoudé au bar du cher Ramon » et un dieu entre et il lui propose une enquête. Et à la fin d'une enquête, il retourne au cher Ramon, donc au Caire. Et « J'étais accoudé au bar du cher Ramon en espérant qu'on me laisse tranquille » et à nouveau un dieu arrivait. Donc là, évidemment, il est accoudé, mais enfin, il n'y a pas de dieu qui varie puisqu'on l'a sorti un peu de l'équation. Alors, pourquoi ça? Parce que on s'est dit que déjà, on avait déjà un petit peu en tête l'histoire et l'enchaînement des tomes, ce qui fait que ça donne une logique et une cohérence au personnage. Et on avait aussi peur avec Philippe de se dire que si à chaque fois on prenait un panthéon et on recommençait la même chose, ça finirait par devenir répétitif. Alors que là, on avait jusqu'à présent, je pense, je l'espère du moins, réussi à donner une originalité à chaque tome, non seulement à travers les différents panthéons, mais aussi dans le traitement de l'histoire, dans des nouveaux personnages qui arriveraient. On s'est dit, c'est bien, 5 tomes, et là où il est, on va pouvoir déjà nous passer à autre chose, parce qu'on a aussi envie d'aborder d'autres choses, et on a un gros projet d'une nouvelle série qui, pour le coup, n'a rien à voir, et qui se passerait sous Louis XIV, avec une marquise qui va devenir l'espionne du roi, avec de l'ésotérisme, l'ordre de la Rose-Croix, donc là, finalement, traiter quelque chose de complètement différent, donc ça va nous aérer aussi un peu la tête, et puis on se dit que peut-être que d'ici quelques temps, on pourrait peut-être sortir la serre de l'endroit où il est, mais plus dans les années 30, enfin voilà, en mettant d'autres règles du jeu qui nous permettraient peut-être de réutiliser à nouveau des panthéons ou autres, mais avec un contexte un peu différent, ça serait peut-être la saison 2. Et donc c'était, voilà, on s'est dit qu'on ne sait pas si on le fera, mais je pense que le personnage est quand même très fort, l'univers qu'on a construit est quand même très fort, parce qu'on a vraiment fait un gros travail pour bâtir l'univers, et je pense qu'il va peut-être toquer à la porte à un moment donné, ce personnage, en nous disant, ouh, ne m'oubliez pas. Donc on ne peut pas le garantir, mais c'est possible effectivement qu'on ait un Lasser saison 2 à un moment donné. Voilà.
Alors en deux mots, parce que là on touche au bout, mais deux mots, je ne sais pas si c'est possible. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ce monde celtique? Qu'est-ce que vous y trouvez de particulier qui fait que c'est ça qui nourrit votre imaginaire?
Une vision non binaire des choses. Chez les Celtes, tout va toujours par trois. Le purgatoire des chrétiens, il vient du monachisme irlandais, parce que c'est impossible de voir les choses de façon manichéenne, blanc, noir. Non, il y a forcément gris au milieu. Et ça, c'est et le rythme ternaire aussi, qui fait partie de mes rythmes internes, mes rythmes musicaux. Et puis, ils n'ont pas peur de la mort. Et puis, je sais pas, j'aime bien leur philosophie qui est tu dois leur philosophie elle est fondée sur le respect. Elle est fondée sur le respect de l'environnement, elle est fondée sur le respect des autres et le respect de la parole donnée. Et quand on il y en avait même qui contractaient des dettes en s'engageant à les rembourser après leur mort. Ça peut sembler une arnaque, mais en fait, c'était pas dans une démarche d'arnaque. Parce que on faisait confiance aux héritiers pour continuer, pour honorer la parole. Il y a aussi le fait qu'il y avait un tas de formes de mariage, par exemple. On pouvait se marier de façon temporaire. Lorsqu'on se mariait, c'était pas la femme qui devenait sous la domination du mari. C'était parfois la femme qui prenait le mari sous sa coupe. C'était pas. Enfin, il y avait. C'est une société qui est très différente de la nôtre parce que la nôtre est tellement, tellement imprégnée de droit romain et de vision romaine des choses. Mais cette autre vision de la société, bah, je pense qu'elle devrait beaucoup nous inspirer pour bâtir un monde un peu différent. Parce que celui dans lequel on est, je crois qu'il a démontré ses limites. Voilà.
Donc un retour à une autre vision des choses. Jean-Laurent, Jean-Philippe? Deux mots, vraiment. Parce que Nathalie, il y avait trop de choses à dire. Non, c'était super.
Très vite. Hein. Moi, ce qui m'intéresse dans la société celtique, c'est le volet héroïque. Et le volet héroïque qui vous offre le monde. Et c'est pour ça que j'ai choisi comme titre du cycle Roi du monde. Tout est dans le nom des Biturige. Hein. Une arrogance extraordinaire, une foi en eux absolument extraordinaire, mais en même temps c'est fascinant de se couler dans la peau de ces fous furieux. C'est fatigant aussi de leur prêter l'énergie qu'ils avaient sans doute pour se porter aux trois coins du monde.
des personnalités, des êtres humains qui ont laissé leur nom, et puis des personnalités historiques féminines. Hein. Boudica, c'est pas pour rien. Et je rejoins là, du coup, encore une fois, Nathalie, sur cette équité et cette présence des personnalités féminines très fortes dans ce monde celte.
Merci beaucoup à tous. Merci au public. Bonne fin de festival.